Voilà, prions le Seigneur. Merci Seigneur pour les paroles qui ont été dites au début de ce culte. Que tout est entre tes mains. Il y a plein de choses que nous ne comprenons pas. Et si nous sommes en toi, Seigneur, ce ne doit pas être des choses qui nous effraient. Parce que tout est entre tes mains. Merci pour cette promesse, Seigneur, qui est une promesse de ta parole. Une autre promesse, Seigneur, c'est celle que tu as faite lorsque tu as dit que tu allais répandre ton esprit sur toutes les créatures. Et lorsque tu es remonté près du Père, Seigneur, c'est ce que tu as fait. Tu as répandu ton esprit. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur, parce que nous savons bien que sans ton esprit, nous ne pourrions pas comprendre ton œuvre. Nous ne pourrions pas comprendre la grandeur de ton amour, la grandeur de ton pardon. Et tout simplement, nous ne pourrions pas comprendre en profondeur ce que ta parole nous enseigne. Alors merci pour cet esprit, Seigneur, qui est en nous. Ce n'est pas un concept. On ne peut peut-être pas le toucher, Seigneur, comme on peut toucher un objet, mais c'est une réalité. Tu es vivant en nous par le Saint-Esprit, Seigneur. Et c'est pour ça que notre esprit peut être en communion avec ton esprit. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, béni sois-tu pour cela. Amen.
Amen.
Voilà, aujourd'hui, je vais vous lire trois textes. Alors, je ne vais pas vous les lire l'un à la suite des uns à la suite de l'autre, des autres. Je vais vous lire un premier texte, qui est un texte que vous connaissez par cœur. C'est le texte où Jésus raconte la rencontre qu'il a fait avec la femme cananéenne. Voilà, c'est dans Matthieu, au chapitre 15, et à partir du verset 21. Matthieu 15, à partir du verset 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, » dit-elle, « et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Une note de ma Bible sur ce texte fait remarquer que lorsque les disciples disent à Jésus renvoie-la car elle crie derrière nous. Cela pourrait aussi être traduit par délivre-la car elle crie derrière nous. Vérification faite, je vérifie tout moi. Le verbe grec employé ici a les deux sens. Le premier sens étant délivrer, et le sens renvoyer. Renvoyer ne vient qu'en troisième position. Et en consultant les diverses traductions en français, en anglais et en grec, j'ai constaté que toutes ont retenu renvoie-la. Toutes sauf une. La traduction de Parole vivante qui a été faite par Alfred Kuhn. Il a fallu du courage à ce traducteur pour aller à l'encontre de tous les autres. Et je pense qu'il a raison. En effet, après un silence de Jésus qu'il n'est pas facile d'interpréter, ce n'est pas à la femme qu'il répond, mais à ses disciples qui viennent de lui dire « délivre-la ». Que leur répond-il ? « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël ». Cette phrase fait écho à ce que Jésus avait dit aux 12 disciples au moment où il les a envoyés en mission, je cite, « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » C'est Matthieu 10, 6. Alors on comprendrait mal pourquoi Jésus aurait rappelé à ses disciples le sens de leur mission qui est aussi la sienne, c'est-à-dire d'annoncer l'Évangile qu'aux Juifs, si les disciples avaient dit « renvoie-la ». En lui disant « délivre-la », les disciples demandaient à Jésus de guérir la fille de cette femme pour qu'elle cesse de crier. Or, en guérissant cette femme, ce n'est pas une simple guérison que Jésus opérerait. Ce serait, quoi ? Un signe de la venue du royaume. Et cela posait directement le problème du salut des païens et de leur droit à la bonne nouvelle du salut en Jésus. Vous me suivez ? Le salut des païens ne semble pas être envisagé par Jésus à ce moment de son ministère. Puisqu'il a demandé clairement à ses disciples d'annoncer l'Évangile aux seuls Juifs et qu'il affirme que sa mission est identique à celle de ses disciples au moment de la rencontre avec la Cananéenne. Et je redis ce qu'il dit à la Cananéenne, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Verset 24. On ne peut pas accuser Jésus de ne pas penser ce qu'il dit ou de dire ce qu'il ne pense pas. Vous êtes d'accord ? Alors je vous propose de lire un autre texte dans lequel Jésus est confronté à la demande de guérison d'un païen. Et ce texte est dans Matthieu au chapitre 8, les versets 5 à 13. Et c'est aussi la guérison d'un païen. C'est la guérison du serviteur du centenier. Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant « Mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui dit « Moi, j'irai le guérir. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un « Va » et il va, à l'autre « Viens » et il vient, et à mon serviteur « Fais ceci » et il le fait. Après avoir entendu ceci, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. » Écoutez bien ce qui suit. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme la Cananéenne, ce centenier romain est un païen. Et il demande à Jésus de guérir son serviteur. Et Jésus est tellement étonné de la foi de cet homme qu'il dit à ceux qui sont autour de lui, « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une aussi grande foi. » Et ce qu'il ajoute est sans doute une prise de conscience très douloureuse. Que le peuple que Dieu a choisi ne reconnaît pas le privilège qui lui est accordé, c'est-à-dire l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, et que d'autres hommes, des païens, qui ont foi en lui, mériteraient aussi d'être au bénéfice de cette même annonce du salut. Je relis quand même parce que ça vaut la peine de réécouter. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, c'est-à-dire des païens, qui se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, c'est-à-dire les Juifs, seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ces paroles sont étonnantes. Elle résonne comme si Jésus entrevoyait qu'un jour le salut sera aussi offert aux non-juifs, aux païens. Revenons à la Cananéenne. Le texte nous dit que Jésus se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire dans un territoire essentiellement peuplé de Cananéens qui étaient païens. Avez-vous remarqué comment la femme s'adresse à Jésus ? Fils de David. C'est exactement comme l'aurait fait une juive. Cela veut dire que cette femme avait entendu des juifs parler de Jésus et qu'elle connaissait les guérisons et les miracles qu'il avait accomplis. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Mais les nouvelles, bonnes ou mauvaises, circulaient aussi parmi les populations. Nous allons voir que le titre qu'elle donne à Jésus, fils de David, éclaire la surprenante attitude de Jésus qui n'a pas dit un mot après la demande de cette femme de guérir sa fille tourmentée par un démon. Mais cela éclaire aussi l'étonnante réponse que fait cette femme après que Jésus lui ait dit que le pain est destiné aux enfants et non pas aux petits chiens. Alors, que penser du silence de Jésus? Il a vraisemblablement en mémoire, parce que ça s'est passé peu de temps avant, l'épisode où le centenier romain lui a demandé de guérir son serviteur, et le souvenir de la foi extraordinaire de cet homme païen, une foi que Jésus n'avait jamais rencontrée chez personne, même en Israël. Cette foi hors du commun l'a profondément marqué. Elle le fait s'interroger sur les limites de la mission qu'il s'est fixée et a fixée à ses disciples à ce moment de son ministère, c'est-à-dire n'annoncer la bonne nouvelle du salut qu'au peuple d'Israël. S'il a répondu favorablement à la demande du centenier romain, c'est parce que cet homme avait une foi à déplacer les montagnes. Alors cet homme n'avait-il pas droit, lui aussi, d'être exaucé comme les Juifs? Et cette cananéenne, qui l'interpelle comme l'aurait fait une Juive, et qui témoigne d'une confiance absolue en lui demandant de chasser le démon de sa fille, n'a-t-elle pas droit, elle aussi, d'être exaucée? Ce sont toutes ces pensées qui expliquent sans doute le silence de Jésus. Cette femme qui place toute sa confiance en lui, lui pose un cas de conscience qui le laisse muet. Ses disciples qui sont agacés par les cris de supplication de la femme n'ont pas de cas de conscience, eux. Délivre-la donc, Seigneur, pour qu'on soit tranquille. La femme ne se laisse pas démonter. Seigneur, viens à mon secours. À la première lecture, la réponse que Jésus fait paraît très dure et même choquante. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Dans la façon de penser de notre époque, on pourrait voir du mépris dans ces paroles. Mais ce n'est pas l'habitude de Jésus de mépriser quiconque. Alors, comment comprendre cette remarque? Eh bien, pour nous aider, je vais lire le texte parallèle dans l'Évangile de Marc. L'Évangile de Marc, c'est au chapitre 7, les versets 24 à 30. Voilà ce qu'il est dit. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison, il voulait que personne ne le sache, mais il ne put pas rester caché. Car une femme, dont la fille avait un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syrophénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent des miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de sa fille, de ta fille. C'est le verset 27 qui nous intéresse dans ce texte. Laisse d'abord, les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il y a un mot chez Marc qui n'est pas chez Matthieu. C'est l'adverbe d'abord. Cet adverbe adoucit l'impression de dureté et de mépris que l'on peut ressentir chez Matthieu. Chez Marc, cet adverbe d'abord veut nous montrer quoi ? Veut nous montrer qu'il y a un ordre dans lequel le pain doit être donné. Quel est cet ordre ? En premier, aux enfants d'Israël, et en second, aux païens. Que faut-il comprendre derrière le mot « pain » ? Il faut comprendre le salut offert aux hommes par Jésus. Cet adverbe d'abord ne figure pas dans le texte de Matthieu. Mais qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons que la femme cananéenne a bien compris ce que Jésus veut dire. Non seulement elle a compris, mais elle a accepté qu'Israël soit prioritaire dans le droit au salut. Elle ne s'offusque pas. Que dit-elle ? Oui, Seigneur, c'est-à-dire, oui, c'est vrai. Mais pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, devant cette réponse, Jésus ne tarit pas d'éloge sur la foi de cette femme. Ô femme, ta foi est grande, et qu'il te soit fait comme tu veux. Et la fillette est immédiatement délivrée. Alors, frères et sœurs, que penser de cette apparente contradiction de Jésus, professant qu'il n'a pas été envoyé, qu'il n'a été envoyé que pour son peuple, mais qui guérit pourtant des païens comme le centenier ou la cananéenne? Il semble que ces exceptions annonçaient la participation des païens au salut par la foi en Jésus, après sa mort et sa résurrection. C'est effectivement ce que l'on peut lire dans l'évangile de Matthieu, où une parole de Jésus après sa résurrection et juste avant son ascension annonce clairement que le salut n'est pas réservé aux seuls juifs, mais qu'il est pour tous les hommes qui auront foi en lui. Je cite Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations, des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Pour Jésus, après sa résurrection, il n'est plus question du peuple juif seulement, mais de toutes les nations. Il a fallu un peu de temps à Pierre, qui était un bon juif, pour accepter l'idée que les païens aussi pouvaient être sauvés. On voit cette prise de conscience dans le récit de la conversion de Corneille. Si vous ne l'avez pas en tête, relisez-le chez vous. Voici ce que dit le verset 45. Tous les croyants circoncis, c'est-à-dire les juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. C'était le début d'une transformation incroyable. Les païens, comme les juifs, avaient droit au salut en Jésus-Christ. Il y a eu les mêmes difficultés pour l'apôtre Paul, qui au début de son ministère n'envisageait pas d'annoncer la bonne nouvelle aux païens. Mais à Antioche de Pisidie, je cite ce qui est écrit, « Les Juifs, voyant les foules, c'est-à-dire les foules qui venaient écouter Pierre, les Juifs furent remplis de jalousie et ils contredisaient avec des blasphèmes ce que disait Paul. Paul et Barnabas leur dirent ouvertement, « C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Et le texte nous dit, et les païens qui étaient là se réjouissaient d'entendre des paroles comme ceci. Le temps était venu où tout homme, juif ou païen, croyant en Jésus, pouvait accéder au salut par grâce. Et c'est exactement le plan que Dieu avait déjà révélé à qui ? À Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudira, celui qui te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et voilà pourquoi nous qui ne sommes pas juifs, nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Jésus à la croix. Et j'ajoute, on peut être vraiment interpellé par la foi du centenier, par la foi de la cananéenne, qui n'avait pas du tout les connaissances que nous avons maintenant, parce que nous avons la Bible, nous avons le Nouveau Testament, nous savons exactement ce qui se passe. Quand elle vient demander la guérison de sa fille, c'est-à-dire que le démon soit ôté, chassé, est-ce qu'elle doute ? Non, elle ne doute pas. Lorsque l'officier, le centenier romain, demande à Jésus de guérir son serviteur, est-ce qu'il doute ? Non, on le voit bien dans ce qu'il dit. Moi j'ai des serviteurs aussi, quand je dis « fais ci », il le fait, « va ici », il le va, il y va, « fais ceci », il le fait. Il ne doute pas une seule seconde. Et nous, frères et sœurs, quand nous prions pour une guérison, pour autre chose, hein, c'est pas la peine de finir ma phrase, hein, mais c'est terrible. C'est terrible de ne pas prendre au sérieux ce que dit Jésus et ce que Patrick a raconté tout à l'heure, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Lui, cet homme, il a compris que quand Jésus disait prier pour vos ennemis, il fallait le faire et que ça aurait des répercussions. Et ça en a eu combien de répercussions ? 10 hommes dont la vie a été sauvée. Comment ?
Plus
seulement dans la vie éternelle, sans doute, peut-être aussi. Voilà. Voilà, c'est. Ça m'a interrogé ce texte. Je me dis, est-ce que j'ai la foi, moi, comme le centenier ou comme la samaritaine ? Est-ce que j'ai la foi comme lui, comme elle ? Oui, merci Seigneur de vouloir nous parler avec des textes qui sont vieux de 10 000 ans. Merci Seigneur pour le fait que dès le début de la création, si je puis dire, tu savais que Jésus viendrait, puisque c'est toi qui l'as envoyé sur notre terre pour sauver les hommes et tous les hommes, y compris ceux qui n'avaient jamais accordé une seule des prières à toi, Seigneur. C'est un mystère, Seigneur. C'est un mystère que Jésus ait commencé par dire qu'il avait été simplement envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais qu'après, il savait il l'a dit, qu'il était venu pour tous les hommes, pour sauver tous les hommes. Et nous sommes au bénéfice, Seigneur. Et combien nous voulons te bénir pour cet immense amour, cet immense cadeau que tu fais.